commencer par un petit film qui, si tout se passe bien, si vous serez les premiers à le voir, puisqu'il n'est pas encore sorti.
C'est ça.
Ah, mais c'est sur l'ordinateur, il n'y a pas d'enceinte. Faites plus fort. Péchu à la Goran Bogdanovich.
Ah,
en vrai, c'est un petit peu exagéré. C'est un peu ça. Donc ça, c'est un petit film de, bah, du coup, qui est censé sortir ce mois-ci. On a fait en disant qu'on, voilà, on en avait besoin. Ça, c'est un moment qu'on n'avait pas de film qui soit aussi bien château que musée. Et on le voulait, bah vous voyez, hein, assez décalé pour qu'il soit pas du tout institutionnel et un peu tristoun. On voulait vraiment le plus possible révélateur de tout ce qu'on possédait, parce qu'on voit vraiment la diversité des collections. Et en même temps, bah forcément, on espère qu'il va donner envie à de potentiels visiteurs de venir ou de revenir. Par une jeune nantaise. Oui. Donc voilà pour la petite exclusivité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le château, vous avez vu des images, hein, château-musée. De Nantes, les chiffres de cette année qui sont alors c'est pareil, hein, c'est pas encore tout à fait officiel. J'ai fait mes petits calculs tout à l'heure, on doit être à peu près à ça. Hein, donc, visiteurs dans la cour 1 500 000, donc un chiffre qui augmente tous les ans. Visiteurs dans le musée, les expositions et la programmation 256 000, donc un chiffre aussi en augmentation. Vous n'êtes pas sans constater que tous les visiteurs de la cour ne viennent pas au musée. C'est quand même assez flagrant, malheureusement. En même temps, on n'y arriverait pas à tous les accueillir en même temps, mais quand même, on aimerait bien en avoir un petit peu plus. Un chiffre aussi qui est important pour nous, c'est que on a mis en place un système de passe. Ce n'est rien de révolutionnaire, tout le monde a ça, mais voilà, on est vraiment très friands de cette fidélisation, en fait. Donc on est assez content d'en avoir 10 000 cette année. Ça veut dire quand même qu'il y a 10 000 grosso modo nantais qui ont l'intention de venir plusieurs fois dans la même année. Donc, c'est quand même assez valorisant. Ça montre que la politique aussi bien de programmation culturelle que des expositions intéresse. Elle est très diversifié. Moi, les expositions donc, qui ont été en place en 2017, on avait la fin d'une exposition Cendre de nos rêves, donc une exposition plutôt bibliothèque, en tout cas en lien avec la littérature et évidemment la Première Guerre. Ensuite, pour l'été, on avait une exposition en partenariat avec le musée de l'or de Bogota, qui s'appelait L'or, les esprits et le chaman. Et là, on vient juste de fermer une petite exposition autour des 47 Ronins. Donc, on était reparti pour un petit voyage au Japon. La diversité de la programmation, elle est aussi pour nous, pour le type d'animation, le type de visite. On travaille vraiment à essayer de proposer une offre qui soit capable d'attirer un public extrêmement large. Et une des nouveautés, c'est une no nocturne thématisée gratuite tous les mois et qui est très régulièrement montée en partenariat. Par exemple, samedi, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir voir des danseurs dans le cadre du festival Trajectoire, qui seront donc dans les salles du musée pendant 4 heures. Donc ça, c'est en janvier. En février, on est en partenariat avec le Conservatoire de musique. En mars, on fait une spéciale autour de Instagram avec les Big Ups de Nantes. Ah, voilà, l'idée, c'est de faire redécouvrir le musée différemment, avec des interventions artistiques qui puissent toucher tout type de public. C'est vrai que ça nous amène très souvent des étudiants ou des jeunes qu'on a potentiellement du mal à toucher, parce qu'on sait bien que tant qu'on est enfant, on aime bien venir au musée. Puis après, tant qu'on n'a pas d'enfant, hein, pour les 15-35 ans, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc on essaye de leur faire des offres qui seraient susceptibles de les intéresser, et ça marche vraiment super bien. Pour cette année, notre programmation, donc, je vous ai dit, on vient juste de faire les Ronins. Après, on lance là dans un petit peu plus d'un mois une grande exposition qui va durer longtemps, qui s'appelle Rock, une histoire nantaise. Donc là, vous allez être plongé dans l'univers du rock des années 60 à nos jours, avec énormément d'écoutes de musique. On a 120 morceaux différents. On a des reconstitutions de chambres de Dominica, par exemple, un certain nombre d'artistes nantais. Et on a une grosse programmation culturelle associée avec Trampolino et Stéréolux. Donc là encore, on est sur du patrimoine nantais, l'histoire nantaise, mais en partenariat et aussi vers un public différent, parce qu'a priori, on devrait aussi pouvoir toucher des publics qui ne viendraient pas d'habitude. Et puis la grosse expo de l'été, c'est nous les appelons Vikings. Donc là, on est en partenariat avec le musée de Stockholm. Et donc on va avoir plus de 500 objets sur la civilisation viking, avec le petit pendant, je regarde le chronographe, avec le pendant nantais qui sera lui au chronographe. Donc encore normalement une très belle année à nous. Alors ça, c'est l'actualité, mais sinon, évidemment, au niveau de la stratégie numérique au château, elle a été conçue dès le départ du musée. En fait, je pense que vous êtes hyper nombreux à connaître ce que je vous raconte, donc c'est pour ça que je n'ai pas été très très long sur toute cette histoire, parce que je pense que vous avez déjà tous été au musée, et vous savez à quel point la stratégie numérique fait vraiment partie de la scénographie. Donc vous avez un certain nombre de bornes multimédia dans les salles, vous avez des films qui sont soit des films patrimoniaux, où vous allez avoir vraiment un partenariat avec l'INA, des films qui sont des films d'archives, et puis vous avez des films qui sont plutôt des films de médiation, où là c'est des films où on va expliquer certains éléments comme la vie d'Anne de Bretagne en salle 2, ou l'histoire plutôt architecturale ou l'utilisation du château en salle 6. Donc on a vraiment un parcours qui est rythmé avec tout un tas de dispositifs différents, évidemment audio-guide, visio-guide, etc. Avec toujours cette idée de il faut qu'on essaye d'être un petit peu le plus en avance possible pour ne pas se faire dépasser trop vite, parce qu'on sait bien que toutes les technologies évoluent très vite. Mais en même temps, on ne peut pas non plus être trop en avance, parce qu'il y a je pense qu'on a tous vu ça, certaines expérimentations qui ont montré que parfois c'est le public lui qui n'est pas en capacité de comprendre ce qu'on lui propose, ou de l'utiliser comme on l'a imaginé. Donc il faut quand même être toujours un peu méfiant de certaines technologies qui soi-disant seraient révolutionnaires et qui marcheraient au maximum dans 2-3 ans, puis en fin de compte, non, ça ne marche pas. Ça ne prend jamais vraiment. On en a pas mal parlé tout à l'heure, et d'ailleurs vous faisiez la réflexion entre est-ce que on fait des enquêtes, est-ce qu'on fait des études, est-ce qu'on fait des évaluations. Alors c'est vrai que Laurence qui était là tout à l'heure est responsable de tous ces systèmes d'enquête. On en fait vraiment excessivement régulièrement, pas que sur l'offre numérique, mais aussi sur l'offre numérique. Ça peut être avant les projets, en cours de projet, au moment des prototypages, et puis évidemment après pour l'évolution des projets, c'est vraiment c'est pas juste un petit one shot, on prend un stagiaire, on lui fait faire 3 questionnaires, on n'est vraiment pas dans cette idée là, c'est vraiment un travail de long terme qui nourrit la stratégie du château. Puisque vraiment l'idée c'est une évolution et un enrichissement permanent du parcours. Évidemment le château qui maintenant a 11 ans a évolué et les outils numériques aussi ont évolué, alors pas tous, hein, parce que forcément c'est un petit peu cher de faire évoluer les projets numériques, donc il y en a certains, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route et il y en a d'autres qui vont aussi arriver. On a aussi testé des choses, expérimenté ou fait de la recherche. Donc là, c'est le projet avec Florent, on parlera un tout petit peu après. Mais c'est évidemment important. Je pense qu'on se doit de le faire aussi parce qu'on est une institution du service public. On sait bien que tout le monde ne peut pas se le permettre parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. On peut échouer, parce qu'une expérimentation, ça veut dire aussi potentiellement échec. Et ça fait aussi partie du rôle d'une institution publique, d'essayer ça. Les projets transversaux, projets numériques sont évidemment toujours des projets transversaux au sein de l'équipe du musée. Donc on a Christophe qui est le responsable des projets numériques. Mais après, évidemment, il ne travaille pas tout seul et c'est tout l'intérêt de son métier. Même si c'est aussi parfois la difficulté du métier, c'est qu'il faut forcément travailler avec l'équipe de conservation, avec l'équipe des publics, éventuellement avec nos collègues du voyage à Nantes pour tout ce qui va être question d'informatique ou réseau. Et puis aussi très souvent en partenariat, parce que ça, c'est une vraie richesse aussi. Et puis donc, alors je l'ai noté parce que ça me paraissait évident, mais je me suis dit peut-être que ça ne l'était pas pour tous, les outils numériques sont aussi bien déployés dans la collection permanente que dans les expositions temporaires qui peuvent aussi nous permettre de tester des outils, des ergonomies, des dispositifs pour ensuite se dire ça c'est bien, c'est ça qu'on veut dans le musée. Parce qu'on prend moins de risques sur quelques mois. Quand on met quelque chose dans le musée, c'est censé quand même durer un certain nombre d'années. Alors, les projets récents, c'est la maquette du port. Donc là, je vais peut-être laisser Christophe et Florent raconter la maquette du port, même si moi, je suis partie du principe que tout le monde la connaissait parce qu'elle a quand même été très, très diffusée.
Non, c'était très bien. Alors, la maquette du port, c'est vraiment partie d'une idée... On a cette maquette qui date de 1900, qui avait été réalisée pour l'exposition universelle, qui fait 9 mètres et des poussières de long par 1,80 m de large. Et l'idée, c'était de la faire parler et on ne savait pas comment faire. Je me souviens que j'étais avec Bertrand devant la maquette, on se disait, mais comment on pourrait faire? Le tactile multitouch était balbutiant, on ne trouvait pas d'idée de techno sympathique. Et on s'est dit, on va chercher, on va se donner le temps et les moyens de chercher. Donc on a appelé Florent. Pour la partie plus informatique, technologique, disons. Et puis on a appelé Jean-Louis Carmenton, qui travaille au Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques à l'Université, au Centre François Viette. Et on s'est dit, on va essayer de faire un programme de R&D, de réfléchir ensemble, de donner le temps de réfléchir et d'imaginer ce que ça pourrait être avec des étudiants. Et ça devait durer 3 ans, ça en a duré 5. 7, pardon.
Oui. Et ça continue chez certains.
Oui, ça continue chez certains. C'est passé par plein de phases, c'est-à-dire que ça nous a amené à numériser la maquette en 3D alors qu'on n'utilise pas ça dans l'application finale. Ça nous a amené à plein d'hypothèses et puis finalement, ça nous a finalement quand même, au bout de 7 ans, amené à un outil qui est exploitable, qui est exploité, qui fonctionne, qu'on pense faire évoluer encore maintenant, avec comme caractéristique principale son évolutivité, puisque pour une fois on a réussi à séparer, c'est pas un SIG, mais presque, à séparer complètement les données de l'applicatif lui-même. Donc on a vraiment une base et un applicatif, donc on peut faire évoluer l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre comme on veut. Et voilà quoi, enfin, et c'est un truc qui est plutôt. Qui marche plutôt bien auprès du public. Enfin, les gens y passent du temps. Ça n'a pas été simple. Honnêtement, c'est très beau de le dire comme je le dis là. On fait un chouette projet avec des gens formidables, à Centrale, au Centre Sonnet, etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué que de l'énoncer comme ça, ne serait-ce que parce que quand on est sur plusieurs années, comment on capitalise le travail qui a été fait avec un groupe d'étudiants, qu'il a fallu se faire rencontrer entre histoire et. Et ingénieurs, etc., puis parler ensemble, puis construire ensemble, puis après, ben non, c'est la fin de l'année, et puis c'est un autre groupe d'étudiants qui arrive. Donc ça, il y a eu beaucoup de pertes, entre guillemets, enfin, ça a pris beaucoup de temps, en tout cas, d'arriver à porter le projet comme ça, de manière, d'année en année. Mais ça nous a permis aussi d'embaucher quelqu'un en thèse CIFRE, hein, qui a fait son sujet de thèse là-dessus, qui est sorti de Centrale, qui maintenant retravaille à Centrale, si j'ai bien compris.
À Polytech, pardon.
Mais enfin bon, qui est resté dans la recherche autour de tout ça. Et c'est vrai qu'en dehors même de l'objet lui-même, enfin du dispositif numérique lui-même, l'histoire du projet de R&D était super enrichissant. Et nous a permis de faire à la fois des avancées en termes numériques, mais aussi en termes historiques. Puisque, par exemple, une des étudiantes qui travaillait sur la partie histoire, hein, ils ont quand même rédigé plus de 400 fiches sur des différents lieux représentés là, elle a voulu retrouver les descendants de M. Duchesne qui a fabriqué cette maquette. Elle a pris le bottin, elle a appelé tous les Duchesne, ce n'est pas un prénom très rare, jusqu'à tomber sur les descendants, ce qui nous a permis de retrouver des photos de la maquette en cours de construction dans l'atelier avec M. Duchesne à côté, etc. Donc, c'est pas seulement... alors certes, ça coûte cher, mais ça vaut aussi. Enfin, et puis on est un service public. Ça suffit.
Du coup, tu peux peut-être enchaîner avec Ludomus.
Ouais, alors Ludomus, ça a été notre dernier projet. Alors, on a un peu échaudé par les projets de recherche et développement, parce que ça nous coûte un peu cher. On avait une idée avec ma collègue Laurence, qui était en face de moi. On cherchait un moyen de... Là, on est parti d'un truc très pratique, c'est... comment faire pour que les parents, quand ils sont avec leurs enfants, ils passent un bon moment au musée. Ils ne se sentent pas légitimes pour transmettre l'histoire de la ville, etc., parce que l'institution les écrase un petit peu. Du coup, les enfants, ils ont envie de courir, ça agace les parents qui voient pas bien les collections. Et puis finalement, tout le monde passe un bon moment. Ils sortent et ils n'ont plus envie de revenir. Donc on s'est dit, on va leur donner... un truc qui les fasse dialoguer entre... on va essayer d'instituer un dialogue intergénérationnel, collaboratif, etc. Et on va leur donner à chacun une tablette. Une tablette aux parents, une tablette aux enfants. Et puis on va faire un parcours thématique. Alors le premier qu'on a fait pour tester, c'était sur les collections lues. On a pas mal de collections autour de l'affaire utile. Donc on se dit, pour les enfants, c'est pas mal. Allez, ils vont... l'idée, ça va être... l'argument du jeu, puisque c'est un jeu, ben ça va être de faire un nouveau gâteau, en l'occurrence le petit beurre. Et donc les tablettes communiquent entre elles, et on peut envoyer des éléments d'une tablette sur l'autre, des indices, des choses comme ça. Ça incite aussi énormément à regarder les collections. Il y a des puzzles à faire avec des tableaux qui sont découpés, donc il faut bien le regarder pour pouvoir le remonter, enfin des choses comme ça. Et ça, bon, j'ai commencé à chiffrer, je savais combien ça coûtait. C'est vrai que j'arrivais à un montant qui était à peu près trois fois ce qu'on pouvait mettre comme budget. Donc je me suis dit que si on se mettait à trois, avec chacun un tiers, on arriverait à faire le truc. Et on a monté un consortium avec Paris Musée, pour le musée Saint-Lucci, et avec le laboratoire Erasme, dont vous devez tous connaître l'existence. On a demandé une subvention au ministère dans le cadre de l'appel à projet dispositif innovant, qu'on a obtenu. Et avec ça, on a financé le développement non seulement de notre parcours Ludomus, mais d'un éditeur qui permet de fabriquer, donc avec un certain nombre de briques d'interaction préexistantes, et qui permet de fabriquer soi-même son propre parcours. Donc là, on en fait un sur Lure. À partir de la semaine prochaine, on en démarre un autre sur l'exposition Rock. Sanucci est en train de finaliser le sien. Le musée gallo-romain de Fourvière est en train d'en faire un avec trois stagiaires du centre Erasme. Et le code source de tout ça est déposé sur GitHub. Et n'importe quel musée qui souhaite s'en emparer peut tout à fait s'en emparer. Alors, ça, c'est le truc idéal. On a plein de problèmes techniques. C'est une technologie de Wi-Fi direct entre les appareils, ça n'arrête pas de se débloquer. Enfin, bon, on est encore en phase de rodage, mais disons que là, encore une fois, il s'était agi de trouver, de répondre à un besoin précis, hein, la visite par enfant, donc d'imaginer quelque chose qui soit à la fois ludique mais qui apporte du contenu. Il y a aussi de l'audio, il y a aussi de la vidéo, enfin, etc. Et puis ça avec des moyens contraints, et donc de trouver un modèle qui permette de le financer à plusieurs, et puis aussi de pouvoir le répliquer. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si on fait un parcours lu, demain on va vouloir en faire un sur le château, demain on va vouloir en faire un sur l'expo, etc. Donc il fallait vraiment, le côté éditable était super important pour nous, et c'est là qu'on s'est dit, on va être très vite limité en nombre de briques d'interaction. Hein, par exemple, le puzzle où je prends un objet, je mime un objet, je me fais prendre en photo, et ça apparaît sur la tablette avec l'objet, etc. Finalement, en fonction des parcours, on a envie de rajouter des briques, sauf qu'on ne peut pas forcément les financer. Donc on s'est dit, si on offre ça à tous les musées, ils vont le prendre, ça sera gratuit, mais ils vont se dire, ah ben moi aussi, il me faudra des briques, donc ils vont les financer. Et comme ça, on pourra les récupérer. Le principe de l'open source, quoi. Ouais. Donc c'est en place au château, mais il y a à peu près 80% de retour négatif, enfin de déconnexion, etc. Bon, on y travaille, je pense que d'ici 3 mois, 3 à 4 mois, ça sera bon. Et sinon, d'ici là, j'ai des appareils qui, eux, marchent. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez contacter. Voilà.
Et les projets en cours, donc il y a tout ce qui est un petit peu plus classique lié à l'exposition Rock. Dont un dispositif qui est plutôt rigolo même si, et innovant même si ça reste un peu léger. En fait, quand vous allez arriver pour voir l'exposition, vous allez emprunter un gobelet type gobelet de festival. Vous voyez, espèce de gobelet en plastique un peu long dans lequel souvent on boit de la bière. Donc, on est dans l'Expo Rock, donc. Et avec ce gobelet, et ben vous ne boirez pas de la bière, vous écouterez de la musique, parce qu'en fait c'est un amplificateur de son. Donc si vous voulez entendre la musique, il va falloir poser ce gobelet sur certaines sources. Voilà, c'est un peu gadget, mais on est tous assez fans en fait, de ce dispositif. Et puis sinon, dans le parcours permanent, on va partir sur un projet de. Enfin, on est parti sur un projet de tableau animé. On espère en faire 2 cette année et 2 l'année prochaine. Donc là, il s'agit ici. Je ne suis pas dit, je vais vous montrer l'exemple que vous avez mis en place. Donc, on était allé à l'exposition du Moyen-Âge à la Cité des Sciences et des Industries avec Bertrand Guillet et Christophe. Et
Je suis sur le lien de
pas Google, on a vu un dispositif de tableau animé. Je vais y arriver.
On parle d'usage ce matin.
Ah, oui, oui, oui. C'est plutôt un usage. Non, bah non.
Non, ils sont pas faits pour vous.
Donc il y avait ça dans le musée. Donc évidemment, un tableau hyper connu pour les médiévistes. Une base de connaissances. Là, vous n'allez rien entendre. Mais, donc, vous imaginez un commentaire de ce tableau. Donc toute la recherche, en fait, elle avait été faite, notamment par Patrick Boucheron, sur ce tableau. Pour faciliter la compréhension, il s'agit de mettre un peu en vie le tableau en faisant des focus, en faisant bouger les personnages, en expliquant ce qu'ils sont en train de faire, ce qui permet vraiment une compréhension de ce tableau qui est très très riche. Et qui, pour quelqu'un qui n'aurait pas une connaissance quand même assez affûtée du monde médiéval avec la séparation de ville-campagne, etc., qui serait quand même assez complexe, qui là devient excessivement aisé, agréable. Vraiment, c'est un très grand facilitateur, un passeur de connaissances. Donc, c'est vraiment sur cette idée-là qu'on est parti. Pour deux de nos tableaux, deux pour nos tableaux pour cette année. Donc le premier en salle 4, hein, sur un tableau de la ville de Nantes au XVIIe siècle. Le deuxième en salle 10, sur l'estuaire vers Saint-Nazaire. Donc l'idée, c'est d'en faire quatre comme ça pour avoir un parcours où on raconte l'évolution de la ville à travers le temps et à travers du coup la chronologie du musée. Donc là, on est en train de travailler aux deux scénarios pour, on l'espère, une mise en place au mois de juin.
Et ce sera les premières productions en 4K du musée.
Oui, dans cette recherche de toujours être un petit peu en avance.
Quand on a ouvert en 2007, on était un des premiers musées à être en Full HD, hein, donc 1920 pixels par 1200, même pour les bandes, 1080 pour les vidéos. Là, on s'est dit qu'il était temps de passer à la définition supérieure, en se disant que ça rentre dans les 5 ans, c'est rentré dans les usages du public, et on espère que ces films-là dureront plus de 5 ans. Donc on essaye d'anticiper au maximum les évolutions technologiques à venir. Dans 5 ans, ça sera du 8K qu'il faudra faire.
Pour un coût supérieur très limité. On avait un petit peu peur de ça et en fait,
non, ça
quasiment rien.
Mais il suffit d'y penser.
Voilà. La dernière partie, elle est sur les projets à venir et puis surtout sur les projets en ligne. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup parlé, même si évidemment, on a aussi une activité en ligne, alors qui n'est pas excessivement développée, mais que l'on développe, avec toujours cette petite dichotomie, est-ce que c'est de la communication ou est-ce que c'est de la médiation? Je pense que ça dépend des outils et ça dépend du contenu. Les deux sont possibles. Donc on a fait un partenariat avec Google Institute l'année dernière, qui sera vraiment visible cette année, sur lequel, avec lequel on va donc avoir des pages sur le site Google Art et Culture. Et puis du coup, on va récupérer un certain nombre d'images qu'ils vont numériser de nos œuvres. Pour lesquels on va pouvoir utiliser comme on le souhaite. Et puis une visite type Street View du château et du musée. Open Data, je l'ai marqué parce que on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait petit à petit livrer. Et c'est une démarche qu'on, voilà, qu'on a planifiée et qui va se faire petit à petit dans le temps. Mais on a un certain nombre de données qui peuvent être intéressantes, donc on va les fournir. Ensuite, il y a la partie réseaux sociaux qui est pas forcément notre priorité, mais qui mine de rien prend quand même un peu de temps. On essaye tant bien. On essaye de faire 2 minutes du mieux qu'on peut, mais qui en fait demanderait beaucoup plus de temps et beaucoup plus de professionnalisme si on voulait arriver à quelque chose de vraiment optimum. Et dernière chose, on va travailler avec un youtubeur, et là on sera vraiment un mixte entre de la communication, parce que oui, on utilise YouTube, et oui, c'est un film. Et oui, quelque part, c'est un peu même de la pub. Mais en attendant, c'est de la médiation, parce que ça sera sur l'histoire du château et ça sera un contenu qui sera validé par le directeur. Donc on est vraiment dans un mix des deux, avec une volonté de conquérir ce fameux public qui ne veut pas venir nous voir.
Merci. Merci.